Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons
toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour à tous et nous voilà au 4e épisode de la série d'évaluation. En fait, c'est pas le 4e parce que là, ça a été remplacé par d'autres choses, puis on aura d'autres épisodes. Fait que là, en fait, le 4e, ce n'est plus le 4e, c'est le 6e. Bref, alors, ça va être le dernier épisode de notre série évaluation. Et on a vraiment fait le tour de tous les sujets. Tel que promis, on va vous présenter l'épisode sur l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs.
Peut-être.
Peut-être quoi?
Attends, peut-être. Tout peut changer.
Ah, parce qu'on ne sait même pas si ça va être publié ou non. Mais non, on va le publier. On va faire un effort, puis on va le publier. On va bien le monter, puis on va le publier. Alors, bonjour mesdames, ça va bien?
Bonjour!
Oui! Alors, pour commencer, on va sauter vraiment. Alors, oui, vous n'avez pas un visuel, mais présentement, ces deux dames ont une tasse avec eux.
Qui rend le café tellement meilleur.
Qui rend le café tellement meilleur et que ce sont des tasses qui ont le logo de notre podcast dessus.
Woo-hoo!
Et on adore ça.
On est un vrai podcast parce qu'on a du merch.
Oui, en effet. Alors, passons aux choses sérieuses.
Ça, le café, c'est une chose très sérieuse.
Je pense qu'en fait, la prochaine chose qu'on devrait commander... Ça va être
des graines de café avec ma face café. Dessus.
Pas sur chaque graine ou juste sur l'emballage, je comprends plus là. Mais bon, bref, ça c'est juste une idée, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui le fait.
C'est alors, une blague en passant parce que j'aime pas trop le fait que ma face soit sur le... Je suis pas égocentrique à ce point-là.
Mais c'est bien d'avoir une tasse avec ta face.
Ben dessus. Là, c'est parce que j'ai pas besoin d'écrire mon nom dessus. Tout le monde sait que c'est à moi.
Oui, le café est sérieux. C'est sérieux, mais on va passer à d'autres choses qui sont aussi sérieuses. Alors, mesdames, pourquoi est-ce que nous avons mis ces deux types d'évaluations dans le même épisode?
Bien, je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, parce que les deux, comme tout ce dont on a déjà parlé, ça parle de l'évaluation en tant qu'apprentissage, où l'élève est en train de réfléchir sur ses apprentissages, sur ses progrès, en lien avec les... critères de réussite et de vraiment poser un jugement sur son propre travail.
Mais la différence entre les deux, en fait, c'est qu'il y en a un qui est fait par l'élève ou par, comme quand je auto-évalue, je le fais pour moi. Et il y en a un autre qui est fait par ses collègues, ses pairs, ses amis dans la salle de classe. Alors, c'est ça la différence. Mais les deux sont en lien avec les
critères de réussite.
Alors, on revient toujours à notre base, c'est qu'il faut toujours partir du résultat d'apprentissage ou des résultats d'apprentissage et des critères de réussite. C'est bien ça.
Mm-hmm.
OK. Alors, deuxième question. Comment préparer les élèves à soit une auto-évaluation et une évaluation par les pairs? Alors, la raison pourquoi je vous pose la question, c'est parce que je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui ont peur de ces deux types d'évaluation parce qu'eux autres, ils vont dire, écoute, si moi, je laisse l'élève à faire une auto-évaluation, il va écrire des choses qui sont inappropriées, ils vont pas savoir comment évaluer, puis ils vont donner juste des rétroactions qui sont pas très, très exactes.
Ou gentil. Alors... Et voilà, Vicky, tu sais qu'en éducation, souvent les contre-exemples sont très puissants.
Mm-hmm.
Et moi, quand j'ai commencé en enseignement, je me rappelle d'avoir trouvé un cartable dans ma salle de classe et j'avais lu quelques...
Attends, c'est quelle année ça, quand tu as commencé l'enseignement?
Oh,
ça... c'est pas loin, c'était 2004! C'est ma deuxième carrière, c'était 2004. et oui, il y avait un cartable... dans la salle de classe. Et il y avait des pages sur l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, puis ça expliquait comment c'était puissant. Et j'étais convaincue, J'ai pris les grilles, je les ai photocopiées et je les ai mis sur les pupitres.
Mm-hmm.
Et c'était un désastre parce que justement, j'avais pas fait la préparation qui était nécessaire.
Quand tu dis c'est un désastre, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, c'est une bonne question, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Ben exactement comme tu avais dit, les élèves n'avaient aucune idée. Ben j'avais pas de critères de réussite dans ma classe à l'époque, on n'en parlait pas. Alors, les élèves ne savaient pas sur quoi ils s'auto-évaluaient. Dans ma tête, c'était clair, mais dans les leurs, ça ne l'était pas du tout. Mm-hmm. Alors, les évaluations n'étaient pas... Il y avait aucune... Les notes n'étaient pas justes. Leurs évaluations n'étaient pas justes. Alors, je ne suis pas passée à l'évaluation par les pairs parce que j'ai vu que, simplement, avec l'auto-évaluation, je n'avais pas mis les bases comme mm-hmm. il fallait.
Ils ont presque vu ça comme une autre feuille pour colorier, une autre feuille pour dessiner.
Oui, puis lorsqu'on ne l'a pas modélisé, tu sais, les élèves, tout le monde veut réussir. Alors, qui va dire « non, je n'ai pas fait ça » Tu sais, oui. comme mm-hmm. Ils ne s'auto-évaluent pas à leur...
Mais ils ne s'évaluent pas en fonction de ce qu'ils ont vraiment fait comme tâche. C'est pas la réalité, là, la vraie...
Ça, exactement. Parce ça que souvent, pas la réalité.
Les élèves qui sont plus exigeants au niveau de l'attention, ils vont nous dire que hey, pff, j'ai fait ça haut la main! Ça, c'était une crème glacée, trois boules avec le sundae, tout là. Puis l'enfant qui est plus anxieux, pour qui a moins confiance en lui, son travail était de qualité extrême, mais il l'a noté comme en deçà de ce que ça...
Oui, c'est ça.
Alors, c'est ça, de comment faire pour que l'enfant ait un jugement réel sur son travail. Bien, comme tu l'as dit, c'est la modélisation. Comment est-ce qu'on fait pour porter un jugement sur l'évaluation? Comment est-ce que j'utilise les critères de réussite pour pouvoir apporter un jugement, pour pouvoir donner une rétro soit à moi... ou soit à mon collègue.
Et encore une fois, c'est là où les critères bien établis et très clairs sont super utiles. Parce que comme ça, c'est vraiment une évaluation objective. Mm-hmm. On peut pas... on dit pas « j'aime pas ton histoire parce que c'est plate, parce que c'est ennuyant ».
Non.
Si on a de bons critères, l'élève est capable de porter un jugement sur le travail de l'autre.
Absolument. Ouais.
Alors, en fait, si on dit modéliser, c'est comme ça me rappelle de... Comme si quand on modélise la lecture ou une stratégie de lecture devant un groupe d'élèves, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand moi, je le faisais, c'est que je leur disais toujours... Je verbalisais ce qui se passait dans ma tête.
Le discours interne.
Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui est semblable à ça aussi?
Absolument.
Pour une auto-évaluation puis une évaluation par les pairs, ouais.
Puis je pense que l'auto-évaluation, c'est justement... donner du vocabulaire à ce discours interne-là pour porter un jugement sur ce que je fais. Parce que si, par exemple, je me stationne pour aller au supermarché puis que je suis complètement à l'extérieur des lignes, ben le discours interne va me le dire. Écoute, Mylène, t'aurais pu te forcer sur le stationnement parce que là, c'est... Mais tout comme ce discours interne-là nous parle à longueur de journée pour nous porter des auto-évaluations sur ce qu'on fait.
Tandis que quand tu stationnes, il y a juste un seul critère, c'est de rester entre les lignes.
Ben, je ou est-ce pense que comme l'angle... Les autos autour auraient tendance à dire qu'il y a plus de critères que ça, là.
Oui.
Mais...
Alors socialement, de façon sociale, oui, je sais. Dans la société, on a établi les critères pour comment bien stationner une voiture,
ouais.
Genre.
Oui, parce que puis quand on roule en voiture, puis c'est pas nous qui conduisons, puis là, on regarde, puis on fait « ouf! » En tout cas, celui-là était pressé, hein, il m'a stationné. Mais c'est des choses qu'on fait à longueur de journée, là, de porter un jugement sur ce que nous, on fait.
Est-ce que tu laisses une rétroaction par les pairs sur le...
La prochaine fois...
En dessous de l'essuie-glace.
Ce que je te propose, c'est...
Tu as bien...
Tourner en 5 points, là, pour te stationner.
Il va y avoir une grille avec des bonhommes sourires, des bonhommes pas sourires. Ouais. J'aimerais pas ça, moi. Mais en fait, pourquoi pas? Si tu me dis que je stationne mal, ben j'aimerais ça savoir. Que, par contre, je
le sais. Donne-moi des trucs ouais. pour que je me stationne mieux.
Ouais. Alors, allons à la prochaine question. Puis ma prochaine question, c'est quand est-ce que c'est mieux de faire une auto-évaluation, une évaluation par les pairs? Puis quand est-ce que c'est mieux de faire une évaluation par l'enseignante? Alors, bref, quand est-ce que c'est plus approprié?
C'est une bonne question, ça.
Oui.
Mais je crois qu'un point important, c'est que L'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation, c'est vraiment en tant qu'apprentissage, comme on avait dit. Puis l'évaluation de l'apprentissage est toujours faite par l'enseignant.
Mm-hmm.
Alors, la note qui va aller sur le bulletin, c'est jamais un élève qui va décider de cette note-là.
Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que l'adulte qui porte un jugement peut utiliser l'enfant pour...
C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça peut venir influencer? Pas en majeure partie, mais...
Mais je pense que nos observations puis tout ce qu'on a consigné, qui sont les preuves de l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, ça va avoir un impact sur notre jugement. Parce que si un élève est capable de s'évaluer de façon juste et d'évaluer ses pairs de façon juste, mais là, il y a une démarche, il y a une métacognition qu'on est capable d'observer. Mmh.
Ça revient rejoindre à la triangulation. Parce que les auto-évaluations puis les évaluations par les pairs, ça peut être une des preuves d'apprentissage,
mmh.
en autant que ça soit sur l'œuvre de l'autre élève, en autant que ça soit sur les, probablement, dans un oui. sens, les HHT de l'élève qui est en train d'évaluer aussi.
Oui, absolument. Parce que je pense du fond du cœur que les évaluations qui sont créées par moi ou par mes collègues, l'auto-évaluation puis celle-là par les pairs, devraient aussi bien être compilées en tant que documentation que si c'est évaluation par l'adulte, par exemple, ou peu importe, parce que ça l'apporte beaucoup
mm-hmm.
au niveau de, bon, si lui a reconnu, si moi j'ai reconnu par exemple que dans ton texte, le pluriel n'était pas là, les points, mais ça me dit que j'ai une certaine conscience dans mon écrit, puis que si je ne suis pas capable de le voir sur mon texte, il y a mm-hmm. peut-être une question de surcharge cognitive ou quoi que ce soit, mais le fait que je suis capable de le reconnaître dans ton texte, mm-hmm. moi ça me dit comme information en tant qu'adulte que, bien, il a compris. Oui, c'est juste que quand je lui demande de faire des corrigés, peut-être mmh. que je pourrais lui demander de corriger un texte plus court pour qu'il soit capable
justement. Ah, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, c'est très, très intéressant.
J'aime ça. J'aime cet exemple-là parce que ça veut pas dire, ça me démontre aussi que, en fait, cet élève-là a bel et bien compris. C'est juste probablement la tâche qui est pas. C'est pas qu'il n'est pas approprié, mais sauf que il est peut-être juste pas à son niveau.
Non, et puis, comme tu avais mentionné, c'est souvent plus difficile de corriger ton propre travail parce que toi, tu vois ce que tu penses que tu as écrit.
Oui, oui.
Alors, on dit toujours que ça prend du temps ou une autre personne pour te corriger. Souvent, avant d'envoyer un courriel important,
oui.
je demande à quelqu'un d'autre de me relire. Ah,
absolument.
Puis c'est
absolument.
Pareil pour les élèves.
Absolument. Ouais. Parce que l'écriture, c'est une tâche très complexe.
Oui.
Et puis...
Comme l'évaluation.
Comme l'évaluation, tout à fait. Oui. Tout à fait.
Qu'est-ce qui est plus efficace, vous pensez? Est-ce que...
Entre
toutes ces évaluations... Ben, tu sais, là, je parle de les trois types d'évaluations qu'on est en train de parler. L'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, puis l'évaluation par l'enseignant. Qu'est-ce qui est plus...
Moi, je te dirais que ça dépend c'est quoi ton intention.
OK.
Ton intention pédagogique va toujours guider vers quelle évaluation tu vas vouloir aller. Parce que si je veux, par exemple... on a encore plein de temps dans l'évaluation, que le texte ou peu importe la tâche à produire, on a encore beaucoup de temps. Bien là, ça va être l'élève ou lui-même qui va apporter un jugement. Parce que quand c'est l'adulte, généralement, c'est le on passe à autre chose.
Mm-hmm. Okay.
Tandis que s'il y a encore du temps pour retravailler, est-ce que tu es d'accord?
Oui, mais je pense qu'on est encore plus efficace si on peut amener nos élèves à s'auto-évaluer de façon efficace. Parce que comme enseignante, si je suis la seule personne dans la salle qui est capable de donner une bonne rétroaction, je peux seulement travailler avec un élève à la fois pour lui donner une rétroaction personnelle. Mais si j'ai toute une classe qui est capable de le faire, ben on va évoluer beaucoup plus rapidement.
Mm-hmm. Oh. Et là, ça fait que tu as 20 quelques regards... en lien avec les critères de réussite qui sont en tout temps en salle de classe, ce qui fait que rend exponentielle la présence de l'évaluation dans la salle de classe.
Ouais, quand tu vas aller loin, vous y allez ensemble. Quand tu vas aller vite, tu vas tout seul.
Est-ce que vous aimeriez...
Vous n'avez jamais entendu parler de ça?
Oui.
Oui.
Mais
oui.
Que là, tout de suite, c'était pertinent.
Est-ce que je pourrais vous raconter une autre anecdote, Mrs. Yu?
Absolument.
Oh, Madame Yu.
J'espère qu'un jour, elle va écouter notre podcast. J'avais déjà dit que Nigel n'était pas super fort en lecture et en écriture, mais quand il était dans la classe de Mrs. Yu, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça dans le contexte du podcast.
Mais raconte-nous-le.
Tu vas toujours le couvrir si c'est le cas. Elle avait proposé des projets à sa classe que Nigel était revenu à la maison, puis j'ai pensé... c'est vraiment pas à sa portée. Il sera pas capable, je suis désolée, mais c'est vraiment très, très ambitieux. Mais avec les critères, lui, il était vraiment capable de faire son travail, de regarder les critères et de se donner à la table, dans la salle à manger, une rétroaction en lien avec, avec les critères et d'améliorer son travail lui-même.
Mm-hmm.
Puis, ça lui a permis de dépasser ses propres attentes.
Mmh. Et ouais. Celle de sa maman.
Et celle de sa maman, oui, c'est vraiment triste que j'aurais pensé ça.
Non, mais non.
Mais non, ça lui a vraiment permis d'aller plus loin et de devenir un élève plus confiant.
Les cibles ambitieux, mais atteignables. Mmh.
C'est drôle parce que là, je viens de faire preuve de ce que John Hattie dit dans Visible Learning. Parce qu'en ce moment, le facteur numéro un dans l'amélioration de l'élève ou du cheminement, du rendement de l'élève, c'est self-reported grades, qui est vraiment l'auto-évaluation. Et c'est là où j'avais jamais fait le lien entre l'histoire de Mrs. Yu et Nigel et cette stratégie. Mais c'est de demander à l'élève, on propose la tâche, on dit à l'élève que tu as fait ton ébauche. Tu penses que tu vas recevoir quelle note? Puis l'élève dit, ben moi, je sais pas, j'écris pas très bien. Je pense que mon travail, c'est un niveau 2.
Mm-hmm.
Puis John Hattie dit que la plupart du temps, les élèves, leur prédiction est juste.
Mm-hmm.
Mais ce qui est puissant, c'est pas que l'élève se dit, je suis un niveau 2, c'est un niveau 2. Mais c'est d'amener l'élève plus loin suite à ça. Mm-hmm. Alors, de lui dire, oui, c'est vrai, ce que tu as ici, ça répond à tel, tel, tel critère. Et voici trois choses que tu peux aller faire maintenant pour
aller plus loin.
Pour aller plus loin.
Oui.
Et puis de montrer à l'élève qu'il est capable de dépasser ses propres attentes.
OK, ouais. Amélioration continue, en fait.
Oui.
Oui, et ouais. Mentalité de croissance au bout. Ouais,
absolument, absolument.
Ouais.
On aime beaucoup les recherches de John Hattie.
Absolument, oui.
Par on, je moi.
Et moi.
Et moi.
Oui, hashtag visible learning.
Mais il y a un livre aussi, son document a été traduit, Rendre l'apprentissage visible.
Oui.
Très, très
important. Je pense que nous, on a l'expérience dans à peu près tous les niveaux à l'élémentaire, mais quand on parle d'une auto-évaluation puis une évaluation par les pairs, est-ce que ça peut fonctionner même pour les plus petits?
Ben oui. Absolument.
Ah, et l'essentiel est-ce que je retourne un petit peu à notre conversation il y a une dizaine de minutes, c'est de bien les préparer.
Absolument.
Puis si c'est bien préparé, si c'est bien modélisé,
oui.
Même les petits peuvent le
absolument.
Faire.
Absolument. Puis c'est dans la question du vocabulaire aussi, parce que souvent les enfants, comme ils ont de la misère à s'exprimer ou sont un peu maladroits, justement parce qu'ils n'ont pas ce vocabulaire-là.
Mm-hmm.
Ils ont des trous dans leurs phrases qu'ils essaient de combler avec... Peu importe ce qu'ils savent, puis si ce qu'ils savent, c'est des mots qui sont moins pertinents, ben c'est ça qui sort. Mais l'idée dans la modélisation, dans la préparation, dans « Hey, je suis en train de voir que... » Ben, tout dépendant à quel niveau de petit on parle, mais si on est en maternelle-jardin, par exemple, l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, c'est différent. Mais si on parle de première année, puis que je me dis, au niveau de l'évaluation par les pairs, de voir « Hmm... » voici la tâche qui était à produire, voici ce que ton ami a produit, qu'est-ce que tu es capable de dire à ce niveau-là qui est constructif. Mm-hmm. Alors, par constructif, ben, je devrais voir quelque chose qui est bien fait, je devrais mm-hmm. voir quelque chose qui devrait travailler, puis on devrait parler de qu'est-ce qu'on devrait faire pour être capable de s'améliorer là-dessus. Mm-hmm. Fait, puis je dirais que, comme avec les premières années, c'est généralement pas du de la rétroaction écrite.
Non.
Parce que...
Ça se fait pas.
Voilà. Alors, on va commencer par le dire. Ah, oh, je vois que ton travail, je vois que t'as oublié un point,
mm-hmm.
ou des choses comme ça. Puis, ce que j'aimais faire avec les élèves, c'est m'asseoir avec eux et de moi jouer le rôle du père, mm-hmm. pas juste jouer le rôle de l'enseignante, mais de voir, OK, je remarque sur ton travail, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord avec ce que je te dis? Est-ce que tu... Puis là, ben... Quand l'enfant est capable de prendre différents points de vue pour évaluer son travail, ben il y a aussi différentes stratégies qu'il peut comme utiliser pour aller plus loin.
Absolument. Okay.
Je me demande si la stratégie qu'on avait vue en mathématiques qui s'appelle mon erreur préférée,
oui.
serait pas une bonne façon de préparer les élèves à donner des rétroactions à leur père.
C'est une très bonne idée. Oui, parce qu'en fait, c'est ça... Puis là, c'est drôle parce que cette semaine, dans l'accompagnement que j'ai fait dans une école, c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé sur l'erreur préférée, sur une résolution de problème en mathématiques. Et puis, je faisais seulement répéter. Puis, quand on parle d'erreur favorite, c'est on pose une question aux élèves. Les élèves vont répondre à la résolution sur un bout de papier. Et là, l'adulte va aller séparer si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et va aller choisir dans les mauvaises réponses toutes les réponses qui ont un potentiel au niveau de l'enseignement pour aller dans l'analyse de l'erreur. Et là, sur le tableau, je suis allée mettre, par exemple, la stratégie d'un élève, comme par exemple, c'était 60 quelque chose. Puis là, l'enfant avait oublié la retenue, avait mis la retenue à la mauvaise place. Et là, je demandais aux enfants, est-ce qu'il y a une erreur ici? Si oui, c'est quoi l'erreur? Puis là, l'enfant disait, ben là, il a oublié de mettre la retenue n'est pas à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben la retenue, au lieu de la mettre ici, il faut la mettre ici. Et moi, ce que je fais, je le mets dans une boîte. Comme ça, c'est plus facile de voir que les retenues sont à l'extérieur de la boîte. Puis là, je me dis, wow. Alors ça, c'était vraiment...
Ça parle fort. Puis en même temps, tu racontais l'histoire. Moi aussi, j'étais dans une salle de classe. Puis on a fait une activité qui est un peu semblable. C'est d'écrire des phrases, mais ils sont au cycle moyen. Alors, tu sais, on travaillait sur plusieurs choses. Tu sais, on travaillait déjà sur non seulement le majuscule puis le point. On travaillait aussi sur d'autres choses comme, tu sais, d'avoir un sujet, un prédicat. Puis tout ça, puis tout. Il faut que tout soit fait. Puis on avait fait... à peu près la même activité qu'on leur a demandé d'écrire des phrases, mais ce qu'on n'avait pas fait, c'est de faire mon erreur préférée. Puis je pense que ça, comme j'aurais pu faire cette activité-là avec dans un contexte de littératie aussi.
Absolument. Ouais. La seule n'importe chose, c'est dans quoi. La préparation des élèves. Exactement. Parce que ces élèves-là ont été préparés au niveau de la mentalité de croissance. Ouais. Si mon erreur est choisie, je vais pas m'effondrer. Au contraire, c'est mon erreur va pouvoir permettre à tout le monde d'aller plus loin au niveau de l'apprentissage. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'on veut pas que l'enfant devienne anxieux ou humilié ou voilà, parce que son erreur a été choisie, mais au contraire, de le voir comme un moment d'apprentissage pour tous.
Encore une autre fois, erreur attendue, célébrée et inspectée. Absolument. Alors, ça revient rejoindre ça aussi.
Si nos auditeurs aimeraient voir un exemple de cette stratégie, je vais partager la vidéo sur notre page Facebook.
Excellent.
Oui, absolument. Ça conclut un petit peu notre conversation sur l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs.
La série d'évaluation est finie!
mais on a bien, bien d'autres choses
préparées pour vous. OK, je vous mets au défi. Le premier qui nous dit combien de fois est-ce qu'on a dit critères de réussite dans les derniers épisodes, gagne un high five!
Et quoi? Et il y a d'autres choses?
Mais non, mais c'est parce que critères de réussite, on le dit assez pour les 8 prochaines années.
J'en ai mangé, j'en ai roté, je sais pas, c'est fini, on en parle
presque plus.
On va en parler un
petit peu. Souvent.
Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine série ou non, pas du tout?
Je pense que c'est mieux que ce soit une surprise.
OK, ben restez à l'écoute.
J'aime pas les surprises.
Alors, oui, absolument. Restez à l'écoute. Alors, encore une autre fois, merci beaucoup, mesdames. C'était une discussion extrêmement enrichissante. Et à vous autres de nous donner vos rétroactions, à vous autres de nous donner une évaluation par les pairs aussi. Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel pour toute la classe à gmail.com ou aller sur notre page Facebook.
Pour toute la classe sur Facebook. Et nous avons maintenant un identifiant Twitter.
Oui, c'est tout pour.
Oui, hashtag tout pour. Alors, merci encore et à la prochaine.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!